18h sur France Culture, tout de suite le journal de la rédaction. Journal présenté par Tara Schlegel. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Les négociations sur l'assurance chômage sont dans l'impasse. Le gouvernement va reprendre la main après cet échec entre partenaires sociaux qui ne s'étaient pas vus depuis 1982. Le régime des intermittents du spectacle devrait être sauvé. Dossier suivi par Jean-Marc Chardon. Les premières comparutions immédiates des casseurs qui ont sévi pendant la manifestation de mardi dernier nous rejoindront Violette Voldoir au tribunal correctionnel de Paris. Et puis dans cette édition, nous irons bien sûr à Londres où une députée travailliste a été blessée par balle. Nous irons donc dans un instant en Angleterre. Et puis à Orlando, où le président américain Barack Obama rencontre les familles des 49 victimes de la tuerie survenue dans une boîte de nuit gay. Nous serons en direct avec Claude Guibal, 18h20, du grain à moudre, avec vous Mélanie Chalandon.
Et oui, nous parlerons de bactéries ce soir, de ces bactéries qui inquiètent car elles résistent de plus en plus aux antibiotiques. Nous ferons le point sur le phénomène avec nos invités, Jean Vinoc de Cousser, pharmacien hospitalier au CHU de Créteil, France Roblot, responsable du service des maladies infectieuses au CHU de Poitiers, et Paul Benkimoun, journaliste au Monde, spécialiste des questions de médecine et de santé.
À tout à l'heure. Nous partons donc, comme promis, d'abord pour Londres, qui est bouleversée par une agression survenue en pleine campagne pour le référendum. Une députée britannique a été grièvement blessée aujourd'hui par balle. Cette élue est âgée d'une quarantaine d'années. Elle est membre du Parti travailliste. Elle faisait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Tara.
Alors que sait-on de l'individu qui aurait tiré, Franck, et peut-on invoquer un motif politique ?
Alors c'est un peu tôt pour le dire. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'incident s'est produit vers 13h, heure locale, à Burstall, près de Leeds. Les faits sont encore confus. D'après des témoins, la députée britannique travailliste Jo Cox serait intervenue dans une altercation entre deux hommes. Difficile à ce stade de savoir si elle était vraiment la cible première de l'agresseur. L'un de ces deux hommes lui aurait en tout cas tiré dessus. On parle de deux coups de feu. Il l'aurait aussi frappé avec un couteau, selon des témoins. Un homme de 52 ans a été arrêté. Certains témoins affirment que l'agresseur aurait crié « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. « Britain first », c'est aussi un petit parti politique d'extrême droite, d'où la thèse d'un acte politique, alors que le Royaume-Uni est en pleine campagne référendaire, mais ça reste bien sûr à confirmer. C'est l'une des pistes examinées par les enquêteurs. Ce qui est certain, c'est que Jo Cox militait en effet pour le maintien de son pays dans l'UE. Toute la campagne référendaire est suspendue pour le moment. Jo Cox est actuellement dans un état critique à l'hôpital. Elle a 41 ans, deux enfants, elle est mariée. Ce n'est pas une figure de la vie politique britannique, mais une députée travailliste respectée.
Merci beaucoup Franck Madvon, en direct de Londres. Et on rappelle que le référendum pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne aura lieu dans une semaine, jeudi prochain. Partons maintenant pour Orlando, en Floride, où arrive d'ici moins d'une heure maintenant le président Barack Obama. Il vient rencontrer les familles des 49 victimes de la tuerie survenue dimanche à l'aube dans une boîte de nuit gay de la ville. Barack Obama vient avec son vice-président Joe Biden, ce qui donne un tour encore plus officiel à ce déplacement. Cette fusillade intervient, on peut le rappeler, en pleine campagne présidentielle. Et le candidat républicain Donald Trump n'a pas manqué d'exploiter l'émotion suscitée par ce crime. Claude Guibal, vous êtes sur place en Floride, où le président Obama devrait normalement évoquer une fois encore sans doute l'urgence d'interdire les armes à feu.
La Maison Blanche s'est montrée extrêmement discrète sur cette visite de Barack Obama. Nous nous trouvons au Amway Center, la salle omnisport d'Orlando, où des familles, des victimes et des rescapés ont été amenées tout à l'heure. Des familles qui se sont serrées dans les bras et qu'on a vu aussi en fait étreindre longuement les policiers présents. Alors on ne sait pas encore si Barack Obama va s'exprimer publiquement ou si, comme après l'attentat de San Bernardino, eh bien tout cela pourrait se faire à l'écart des caméras. Le massacre d'Orlando soulève en tout cas des questions ultra sensibles dans ce contexte de campagne présidentielle. L'homophobie bien sûr, mais surtout le terrorisme djihadiste et le contrôle des armes. Donald Trump a semblé hier amorcer un léger fléchissement en annonçant qu'il allait rencontrer les responsables de la NRA, le puissant lobby des armes américains, un lobby qui le soutient. Donald Trump dit vouloir réfléchir avec eux pour voir comment empêcher des personnes qui ont fait l'objet d'un signalement antiterroriste ou d'une interdiction de vol d'acheter des armes à feu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seules les ventes en magasin font l'objet d'une vérification, et encore une vérification minimale. Ce n'est pas le cas des ventes par petite annonce sur Internet ou dans les foires d'occasion.
Merci beaucoup Claude Guibal, donc en direct d'Orlando, en Floride, aux États-Unis. À l'étranger, en bref, cet attentat à Sirte en Libye, où les forces du régime d'Union nationale qui s'est installé à Tripoli tentent de déloger les djihadistes. Une explosion a tué 10 soldats combattants donc contre Daesh, tout près de cette ville de Sirte, qui est un fief de l'organisation État islamique en Libye. Et puis la guerre en Syrie, cette fois, qui fait des ravages à Alep. Hier, John Kerry avait haussé le ton, parlant de la patience américaine qui avait atteint ses limites. La Russie a annoncé dans la foulée ou presque une nouvelle trêve à Alep, trêve temporaire qui devait prendre effet à 1h du matin la nuit dernière, qui a déjà été battue en brèche par plusieurs bombardements aujourd'hui. Sur place, de toute façon, les cessations des hostilités sont toujours très courtes. Les ONG présentes sur le terrain dénoncent d'ailleurs ces innombrables bombardements, comme celui qui a détruit un hôpital géré par Médecins du Monde. Heureusement, les bombes n'ont pas fait de victimes directes, mais le travail est devenu presque impossible sur place. Joël Weiler est responsable de la cellule d'urgence de MDM.
Nous, on est énormément sur la protection, alors au-delà des bâtiments, mais c'est la protection du binôme soignant-soigné, quoi. Il n'est pas normal que soient visés des blessés, que soient visés des médecins. Et le régime a toujours fait ça et continue de faire ça, hein, sachant que Bachar lui-même est médecin. Miraculeusement, il n'y a pas eu de décès. Mais c'est souvent ce qui est très compliqué pour le nombre de victimes, c'est que c'est pas une bombe qui tombe. C'est des bombardements, des rafales, etc. Donc ça nous est souvent très compliqué de chiffrer l'événement, puisque c'est quand même Alep, là, c'est une ville qui subit quasiment un siège depuis avril. Donc on n'est pas sur l'événement même, quoi. Après, ça nous oblige à réinventer nos modes opératoires. On travaille énormément avec des partenaires syriens, on travaille avec des initiatives de la population syrienne. On est vraiment... c'est les Syriens pour les Syriens, quoi. Moi-même, je suis resté 9 mois dans la région d'Alep. Il y a des moments où on peut plus soigner là, mais parce que de toute façon, on ne peut plus vivre là, nous et la population. On va un peu plus loin, on s'adapte. On n'a jamais eu l'intention et on n'a pas l'intention d'arrêter de soigner et de s'occuper de la population. Alors, quand je dis nous, hein, c'est Médecins du Monde et ses partenaires, hein. Que ce soit des ONG syriennes, que ce soit des centres de santé qu'on appuyait autrefois avec le Croissant Rouge syrien qui continue à tourner bon an mal an. Au contraire, on essaie de redoubler d'efforts là, sur la couverture médicale à l'intérieur de la Syrie. Et depuis début avril, vraiment, c'est de l'escalade.
Joël Weiler, responsable donc de Médecins du Monde, au micro de Nadine Epstein. Et puis en France, un jeune homme radicalisé de 22 ans a été arrêté à Carcassonne. Il est toujours en garde à vue aujourd'hui, jeudi. Il a été arrêté lundi. Une source proche de l'enquête évoque un projet d'attaque visant des touristes américains et russes convertis à l'islam. Le jeune homme est originaire de Lunel, dans l'Hérault, une commune d'où sont partis plusieurs djihadistes. Ces conflits armés qui n'en finissent pas et la misère aussi due au changement climatique, autant de facteurs qui poussent, on le sait, des centaines de milliers de réfugiés sur les routes. Beaucoup rêvent de rejoindre l'Angleterre où ils ont souvent des parents, mais ils finissent pour beaucoup leur trajet dans les camps situés au nord de la France, que ce soit à Calais ou à Dunkerque. Or, l'UNICEF vient de montrer combien la France néglige le sort qui est fait aux enfants qui prennent justement ce chemin de l'exil. En France, dit l'association, de très nombreux mineurs vivent dans ces camps où ils constituent des proies très faciles pour les passeurs. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Tara.
Et les témoignages que l'UNICEF a pu recueillir sont proprement effrayants.
Oui, la violence, la promiscuité, les conditions très dégradées dans les camps, ces enfants les subissent plus encore que les autres réfugiés et migrants. Comme eux, ils fuient les guerres, le chaos, les persécutions et ont un parcours d'exil parfois long, de plusieurs mois avant d'arriver en France. Parcours lors duquel ils ont été rançonnés, violentés, parfois détenus par des groupes criminels ou ont vu mourir des proches lors de la traversée de la Méditerranée. Mais atteindre la France ne met pas fin aux dangers qu'ils encourent. Ils vivent dans une peur permanente, disent-ils. Ils souffrent tous du froid et de la faim. Dans les camps, ces camps le long des côtes de la Manche, eux, les plus fragiles, ont du mal à accéder aux distributions de repas ou aux douches. Pour survivre, ils sont contraints d'accepter la protection d'un passeur qui les oblige en retour à voler, se prostituer, les contraint à travailler. Ils sont par exemple utilisés pour détourner l'attention de la police lorsque les adultes montent dans les camions à destination de l'Angleterre. Le viol est la crainte la plus partagée chez les jeunes filles comme les jeunes garçons. Certains des mineurs interrogés par les enquêteurs de l'UNICEF n'avaient pas 12 ans. Pour payer ce voyage en Angleterre, dont le prix a flambé avec la fermeture des frontières, entre 5 et 7 000 euros aujourd'hui, plusieurs ont tenté de se prostituer 5 euros la passe. D'autres qui n'arrivent pas à réunir la somme prennent des risques de plus en plus grands en montant seuls dans des camions frigorifiques, par exemple. Toutes les nuits, ils passent des heures à tenter de traverser et le jour, ils travaillent ou se prostituent pour leurs protecteurs. L'UNICEF estime que quelques 500 mineurs isolés vivent actuellement dans les 7 camps des départements du Nord et du Pas-de-Calais où ces enquêteurs se sont rendus. 2000 y seraient passés dans l'année. On ignore leur nombre exact. La France, pourtant condamnée à le faire en fin d'année dernière, n'a toujours pas effectué le recensement des enfants isolés dans ces camps d'infortune.
Merci Marie-Pierre Véraud et vous avez sollicité Juliette Chevalier, directrice du plaidoyer à UNICEF France. Elle rappelle qu'il est de la responsabilité des États de respecter et de protéger les droits des enfants réfugiés et migrants, ce que prévoient d'ailleurs les conventions internationales dont la France est signataire.
Il y a une mise sous abri parmi eux de victimes qu'il faut faire très rapidement et qu'il faut repérer. En France, ce que nous demandons, ce sont des lieux de protection sur les lieux mêmes des camps pour qu'on ait un lieu qui soit un refuge pour ces mineurs dans lesquels ils ne soient pas associés à des majeurs et qu'ils soient dissociés des passeurs et des, entre guillemets, protecteurs. On nous a annoncé aux associations également que ce type de sas était envisagé, mais pour l'instant, il n'a pas été mis en place. Il y a un effort de coordination majeur à faire, en fait. C'est une coordination sur la question des enfants que l'on demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mis autour de la table tous ceux qui travaillent sur cet angle de la protection de l'enfance. Les différents départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Manche, doivent être mis autour d'une table avec l'État, avec les associations sur cette question de l'enfance. La France a ratifié la Convention des droits de l'enfant, la Convention internationale qui régit les droits des enfants, et en l'occurrence, cette convention n'est pas appliquée. Et donc c'est une série de violations au regard de cette convention que l'enquête met en évidence. Donc c'est ce qu'on a transmis aux différents ministères concernés et au gouvernement et nous souhaitons qu'ils prennent conscience de l'ampleur de la situation et du danger et qu'ils prennent rapidement des mesures pour une meilleure coordination pour ces enfants-là.
Juliette Chevalier de l'UNICEF, interrogée par Marie-Pierre Véraud. En France, l'actualité est toujours dominée par le conflit qui oppose les anti-lois travail menées par la CGT au gouvernement. Nous allons revenir sur les violences commises mardi dans un instant, mais d'abord cette illustration en quelque sorte de la tension qui règne dans le secteur social avec l'échec des négociations sur l'assurance chômage. Elles étaient menées depuis des mois et le bras de fer tournait ces derniers temps autour de la question des cotisations patronales. Or, jamais le MEDEF n'a accepté de moduler ses cotisations et l'ensemble des partenaires sociaux a fini par constater aujourd'hui que le désaccord était total. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Et bonsoir Tara.
C'est donc un échec à présent acté, comme on n'en avait pas vu tout de même depuis 1982. Mais il faut noter qu'il devrait y avoir un rescapé. Jean-Marc, c'est le volet qui concerne le chômage des intermittents du spectacle.
Eh bien oui, les intermittents ne seront pas sacrifiés par l'échec des négociations d'assurance chômage. Ils ne le sont pas car pour eux, il y a tout simplement un accord spécifique qui a été trouvé. Un accord de branche, les professionnels du spectacle l'ont conclu, d'ailleurs fin avril, sur de nouvelles règles d'indemnisation. Si vous voulez, c'est un accord particulier, réservé aux intermittents encore une fois, au milieu du désaccord général au niveau du régime de l'UNEDIC. Un accord qui, pour entrer en action, nécessite tout de même que l'État y mette du sien. Et c'est là qu'il restait une marge d'incertitude. L'accord risquant de générer moins d'économies qu'attendues. Cela veut dire que l'État devrait compenser d'autant. En l'État, la ministre du Travail s'est dite prête à le faire. L'État mettra 12 millions sur la table et compte sur des économies. Les économies envisagées sur plusieurs postes. La révision des listes d'emplois éligibles au CDD d'usage, la liste contre les cas d'intermittence qui deviennent permanents, etc. Est-ce que cela suffira ? Bien, pour l'instant, l'État s'engage à effectuer les compensations nécessaires, c'est tout.
Alors, autre question à propos du régime général, cette fois, Jean-Marc, que va faire maintenant l'État qui constate cette incapacité des partenaires sociaux à s'entendre sur l'assurance chômage ?
Alors, l'État n'a pu que constater, en effet, l'impossibilité de parvenir à un accord entre le patronat, refusant de moduler les cotisations, pas de charges nouvelles sur les entreprises, et puis les syndicats de salariés qui, eux, étaient pour sous diverses formules. Alors, faute de consensus, eh bien, la convention est donc prorogée par l'État, elle va durer. Comme les besoins de financement supplémentaires n'ont pas été trouvés, eh bien, cela veut dire que la dette de l'assurance chômage, qui est proche tout de même de 30 milliards. Cette dette va encore augmenter, en clair. Eh bien, il faudra tout de même reprendre ce dossier, mais quand ? Un peu plus tard, sans doute.
Merci beaucoup, Jean-Marc Chardon. C'est donc dans ce contexte tendu, on le voit, que sont jugés aujourd'hui, en comparution immédiate, certains des casseurs qui étaient à l'œuvre pendant la manifestation de mardi. On sait que le gouvernement et la CGT se rejettent mutuellement la responsabilité des échauffourées et des violences commises à Paris. Manuel Valls qualifiant d'ambigu l'attitude du service d'ordre de la CGT et le syndicat soulignant que les forces de police ont laissé faire. 18 manifestants en tout cas sont dès cet après-midi déférés devant la justice. Bonsoir Violette Voldoir.
Bonsoir Tara.
Vous êtes au tribunal correctionnel de Paris où vous avez assisté à ces premières audiences. Les casseurs semblent avoir un profil plutôt atypique, Violette.
Oui, dans le box, un jeune homme brun à la voix fragile, étudiant en philosophie à Poitiers, brillant et travailleur d'après ses professeurs. Il est mis en cause pour avoir lancé des projectiles en direction de la police mardi dernier. Un agent l'a formellement reconnu. Lui nie bien sûr avoir lancé quoi que ce soit et parle de méprise. Mais pourquoi êtes-vous venu en manifestation casqué, équipé de tout cet attirail alors, lui demande la présidente. Je ne me sentais pas en sécurité, je savais que je courais un risque. J'ai vu des vidéos où un journaliste était blessé à la tête, répond le jeune homme. Dans son sac, un masque, une coque pour se protéger l'entrejambe, une casquette renforcée des protèges tibias. On ne le juge pas pour son attirail, bien sûr, affirme alors le procureur. Mais tout de même, monsieur, si la manifestation est dangereuse, eh bien n'y allez pas. Ce conseil s'accompagne d'une réquisition de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et d'un an d'interdiction de séjour à Paris. Le jeune homme frissonne. Ce n'est pas parce qu'il s'était préparé qu'il était là pour jeter des choses sur la police. Voici la ligne de défense de son avocate. Ce jeune homme est décrit par ses proches comme généreux, humaniste, ce n'est pas le bon profil, il y a eu méprise. D'ailleurs, face à la version du policier, certains détails sont troublants, assène l'avocate. D'abord, le jeune homme est décrit comme masqué, puis dans une seconde déclaration du policier, il ne l'est plus, c'est contradictoire. Il était simplement là pour participer, l'interpeller résulte d'une méprise. Fin de la plaidoirie, le jeune homme se rassoit, à ses côtés plusieurs prévenus, une jeune femme en pleurs, un homme qui porte encore son t-shirt déchiré de la manifestation de mardi. Le verdict tombe, l'étudiant en philosophie est reconnu coupable, il est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Merci Violette Voldoir en direct du palais de justice à Paris. Une nouvelle décision à présent sur Vincent Lambert, le jeune homme est dans un état végétatif depuis 2008, sa famille se déchire au sujet de son devenir, sa femme est favorable à l'arrêt des soins, ses parents souhaitent son maintien en vie. Et ce matin, eh bien, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné au médecin de reprendre la procédure qui pourrait aboutir à l'arrêt des soins. Décryptage de Nicolas Hervieux, qui est juriste en droit public à l'université de Paris-Ouest Nanterre.
Le médecin sera libre de décider si ou non il y a lieu, compte tenu des éléments dont il a en sa possession, d'arrêter les traitements et d'envisager de cesser l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert, ou au contraire, de ne rien faire et de rester en l'état compte tenu de la situation qu'il appréciera souverainement. Il y a de nombreux avis médicaux qui ont été sollicités au cours de cette procédure, de cette véritable saga Vincent Lambert, et la quasi-totalité, voire même la totalité, signifiait que la santé de Vincent Lambert restait tout à fait identique et dramatiquement identique. On ne peut absolument pas préjuger de nouvelles expertises, ça relève encore une fois de la compétence médicale. Et là, ce serait assez surprenant que le nouveau constat médical infirme les précédents. Mais là encore, même si les expertises médicales sont similaires, la décision finale reste dans les mains du médecin et ça, la cour administrative d'appel de Nancy a été extrêmement claire, c'est tout seul médecin de décider du sort de Vincent Lambert.
On peut donc penser raisonnablement qu'on se rapproche de la fin des soins.
Effectivement, mais cette affaire a été riche en rebondissements et il y a fort à parier qu'elle le sera encore à l'avenir, en particulier parce que cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy est aujourd'hui immédiatement exécutoire et qu'un pourvoi devant le Conseil d'État ne suspendrait pas en principe cette exécution, mais il est possible de demander au Conseil d'État de sursoir à l'exécution de cet arrêt. Et donc, il n'est pas impossible que de nouvelles péripéties juridictionnelles viennent repousser le moment où le médecin pourra prendre sa décision et, le cas échéant, où l'arrêt des traitements concernant Vincent Lambert et donc sa fin de vie interviendra.
Nicolas Hervieux, juriste au micro d'Antoine Marette. On va terminer avec des nouvelles de l'Euro 2016, mais il ne s'agit toujours pas des résultats sportifs des Bleus, mais plutôt du comportement encore et toujours des supporters russes. 3 d'entre eux viennent d'être condamnés à de la prison ferme et une 20 quarantaine vont être reconduits à la frontière. Bonsoir Bruno Cadenne.
Bonsoir Tara.
Et on se souvient comment le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ministre russe bien sûr, a réagi hier en trouvant les arrestations de ses supporters inadmissibles. La colère devrait donc être forte à Moscou après ses condamnations à de la prison.
Le Kremlin n'a pas encore réagi, mais les peines sont effectivement lourdes pour les hooligans russes. Trois d'entre eux, âgés de 28 à 33 ans, ont été condamnés à de la prison ferme. 1 an, 18 mois et 2 ans, et ils ont été écroués. De plus, ils sont condamnés à 2 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire français. Il s'agit de responsables de 3 groupes de supporters russes, du Lokomotiv Moscou, du Dynamo de Moscou et du club de 2e division Arsenal Toula. En tout, 43 supporters russes avaient été arrêtés dans leur bus à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. 20 ont été libérés, 3 ont donc été condamné à de la prison ferme et 20 seront expulsés de France, et parmi eux le sulfureux Alexander Shprygin, président des supporters de l'équipe nationale russe, mais également ancien hooligan d'extrême droite du Dynamo de Moscou et assistant du député ultranationaliste Igor Lebedev, qui s'était félicité des incidents de Marseille. L'arrestation de ces supporters avait, vous l'a dit, entraîné hier une réaction scandalisée de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et la télévision d'État russe s'était déchaînée contre ce que Moscou qualifie de provocation anti-russe de la part des supporters étrangers. Cependant, comme la Russie doit organiser la prochaine Coupe du Monde dans 2 ans, le hooliganisme commence à inquiéter le Kremlin, qui jusqu'à présent n'a pas fait grand-chose pour endiguer ces violences. Vladimir Poutine a donc demandé la création d'une liste noire des hooligans russes et étrangers en vue de ce mondial 2018.
Merci beaucoup Bruno Cadenne. Un mot encore de la Croatie, où le gouvernement conservateur vient de tomber. Après un vote de défiance du Parlement, le Premier ministre n'est resté que 5 mois en place. Et puis, 10 personnes au moins ont été tuées, plusieurs autres blessées dans une attaque en Centrafrique, dans le nord-ouest du pays. Attaque perpétrée par des peuls armés et par des membres de l'ancienne rébellion Seleka. Le temps qu'il va faire demain, plutôt variable, mais avec quelques belles éclaircies, visiblement réservées surtout à la Bourgogne et à la vallée du Rhône. À 22h, ce sera Stanislas Vazak pour les informations.